Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican.
Devant quelques 800 religieuses qu'il recevait en audience au Vatican, le pape François a rappelé l'importance de leur fidélité au magistère et de leur communion avec les pasteurs et le successeur de Pierre. Plus de 70 000 personnes ce mercredi matin pour l'audience générale Place Saint-Pierre. Le pape a analysé le credo dans sa catéchèse. Rencontre historique au Vatican ce vendredi, le patriarche des Coptes orthodoxes d'Égypte rencontrera le pape François au Vatican, un geste de rapprochement entre la plus grande église chrétienne du monde arabe et l'église catholique. Les associations européennes de personnes atteintes du syndrome de Down ont organisé une rencontre à Rome avec 56 jeunes porteurs du handicap du 7 au 10 mai. Nous leur donnons la parole dans cette édition. Bienvenue dans ce nouveau magazine de Radio Vatican. Centralité du Christ, autorité comme service d'amour, union avec la Mère Église, voilà les trois axes indiqués par le pape François au supérieur général, délégué de 1900 ordres religieux de par le monde. Elles ont été reçues ce mercredi matin en audience par le pape dans la salle Paul VI au Vatican. Le compte-rendu de Bernard de Cotigny.
Dans son discours, le pape a rappelé qu'adorer et servir sont deux attitudes qui ne peuvent être séparées mais doivent toujours aller ensemble, parlant de l'obéissance comme écoute de la volonté de Dieu qui passe par l'Esprit Saint, en acceptant que l'obéissance passe aussi par la médiation humaine. Rappelez-vous, ajoutait le pape, que le rapport autorité-obéissance se situe dans le contexte plus ample du mystère de l'Église et en constitue une réalisation de sa fonction médiatrice. Un deuxième élément dans l'exercice de l'autorité, indiquait le pape, c'est le service, dont la suprême expression est sur la croix. Pour l'homme, a-t-il souligné, l'autorité est souvent synonyme de possession, mais l'autorité comme service est au contraire synonyme d'amour. Cela veut dire entrer dans la logique de Jésus qui se penche pour laver les pieds des pauvres. Et citant l'Évangile, « Vous savez que ceux qui gouvernent les nations les dominent, mais parmi vous il n'en sera rien. Celui qui voudra s'élever parmi vous sera serviteur. » Le pape, par ailleurs, après avoir également critiqué les ambitions carriéristes de certains hommes et certaines femmes d'Église, a demandé aux religieuses d'exercer l'autorité en comprenant, en aimant, en aidant, en embrassant, spécialement les personnes qui se sentent exclues, aux périphéries existentielles du monde humain. Là, a-t-il ajouté, se trouve la véritable autorité quand on se fait serviteur jusqu'au don total de soi. Autre point de réflexion proposé aux religieuses, la pauvreté, qui a souligné le pape, n'est pas la pauvreté théorique. La pauvreté théorique ne nous intéresse pas, la pauvreté s'apprend en touchant la chair du Christ pauvre. Il insistait également sur la nécessité que les religieuses soient spirituellement fécondes et exercent le sens de la maternité. Les religieuses doivent être des mères, pas des vieilles filles, a encore déclaré le pape en s'excusant presque de l'expression, mais en suscitant des applaudissements nourris. Enfin, a conclu le pape, il me semble impossible qu'une femme ou un homme consacré ne puisse être en union avec l'Église, et l'ecclésialité représente l'une des dimensions constitutives de notre vocation. C'est un charisme fondamental pour l'Église.
Bernard de Cotigny. Plus de 70 000 personnes ce mercredi matin pour l'audience générale Place Saint-Pierre et un beau soleil revenu après plusieurs jours de pluie. Comme toujours, le pape a fait le tour de la place, serrant des mains, embrassant des enfants et saluant à tour de bras avant d'entamer sa catéchèse. Une catéchèse qui s'inscrit dans l'année de la foi avec une analyse du credo. Et aujourd'hui, nous en étions à l'Esprit Saint qui nous porte à l'amitié et à la communion avec Dieu. Mais qui donc est-il, s'est interrogé le pape.
Mais qui est le Spirito Santo? Nel credo noi professiamo con
L'Esprit Saint est vraiment Dieu avec le Père et le Fils. Il est le don, l'eau vive qui vient étancher en profondeur la soif irrésistible de vie que tout homme éprouve au fond même de son être. Une vie qui soit belle, juste et bonne, une vie qui se déploie en plénitude et ne connaisse jamais la mort. Le pape a également cité saint Paul.
L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori
L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est ainsi, sous la mouvance du Saint-Esprit, rendu vraiment fils adoptif, que nous pouvons en toute vérité crier vers Dieu « Abba, Père ». Voilà donc le don précieux que le Saint-Esprit dépose en notre cœur. La vie des fils de Dieu, la vie même de Dieu, ce rapport nouveau de filiation divine transforme aussi notre rapport avec les autres, qui deviennent des frères dans le Christ, des frères à respecter et à aimer. Et puis sachez qu'au terme de l'audience générale, le pape s'est adressé aux gardes suisses et à leurs familles qui ont participé lundi à la prestation de serment des 35 nouvelles recrues, ainsi qu'à un groupe de prêtres de Rio de Janeiro qui fêtaient l'anniversaire de leur ordination. Le pape François a également salué la chef de file des Dames en Blanc, l'opposante cubaine Berta Soler. Pas de plus dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Un mémorandum d'entente a été signé ce mardi entre l'autorité d'information financière du Saint-Siège et la cité de l'État du Vatican et le service de renseignement financier du Trésor américain, le FinCEN, le Financial Crimes Enforcement Network. Selon le directeur de l'AIF, René Brulard, le Vatican a démontré qu'il était un partenaire crédible au niveau international et qu'il est clairement engagé dans l'échange d'informations pour combattre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ce mémorandum signé par le directeur de l'AIF et Jennifer Chesky-Calvary, directrice du FinCEN, promouvera la coopération bilatérale grâce à l'échange d'informations dans le secteur financier. C'est une claire indication de la manière dont le Saint-Siège et l'État de la Cité du Vatican assument leurs responsabilités dans le combat contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de la manière dont nous coopérons au plus haut niveau, a notamment déclaré René Brulard. L'AIF, je vous le rappelle, a été créée en 2010 et elle est devenue opérationnelle en avril 2011. Elle est l'autorité compétente du Saint-Siège et de l'État de la Cité du Vatican en ce qui concerne le renseignement financier. Rencontre historique sur le chemin de l'œcuménisme. Le patriarche copte orthodoxe d'Alexandrie, Tawadros II, rencontrera le pape François au Vatican ce vendredi. Ce geste de rapprochement entre la plus grande église chrétienne du monde arabe et l'église catholique interviendra 40 ans après la seule rencontre de ce type. Chenouda III avait été reçu par Paul VI en 1973. À cette occasion, les deux hommes avaient signé une importante déclaration commune sur le Christ et lancé surtout le dialogue bilatéral entre leurs deux églises. Le pape Jean-Paul II avait quant à lui rencontré Chenouda III à l'occasion de son voyage apostolique en Égypte en février 2000. La visite de Tawadros II au Vatican sera le point culminant de son voyage en Europe. Il s'agira du premier déplacement à l'étranger du patriarche depuis son élection en novembre 2012. Retour sur le sens à donner à cette rencontre avec Christian Canuyer. Il est égyptologue, spécialiste des Coptes à l'Université de Lille.
Il est certain que, nonobstant l'importance de la rencontre qui avait eu lieu entre Chenouda III et Paul VI en mai 1973 et qui avait été conclu par un accord christologique reconnaissant que les deux églises avaient, malgré la rupture de Chalcédoine en 451, la même foi dans le même Christ. Le dialogue œcuménique entre les deux églises n'a pas été très fécond ces quatre décennies. Il faut bien dire que l'Église copte a opté durant cette période pour une certaine frilosité œcuménique. Or, on sait que le pape Tawadros II, au contraire, veut redynamiser le dialogue œcuménique en Égypte, l'ouverture de l'Église copte sur les autres églises. Et donc, cette rencontre revêt de ce point de vue-là, au moment où l'Égypte, bien sûr, est à la croisée des chemins, elle revêt une importance capitale.
Sur quelle base, dans quelle voie peut s'orienter ce dialogue œcuménique ?
Tirer les conséquences de l'accord christologique de 1973. On a la même foi dans le même Seigneur. Qu'est-ce que ça implique au niveau de la pratique ecclésiale commune ? Et d'autre part, il y a évidemment notamment les relations de l'Église copte orthodoxe en Égypte avec la toute petite minorité copte catholique. Au fond, cette visite, elle s'inscrit aussi dans la foulée d'un autre événement qui était très important, c'est que le 12 mars, lorsque a été intronisé le nouveau patriarche copte catholique, Mgr Sidrac, le pape Tawadros a fait une visite impromptue, s'est présenté lors de cette cérémonie, il a même pris la parole. C'était un geste sans précédent. Et un mois plus tôt, le 19 février, le pape copte avait accélérer la formation d'un conseil national des églises chrétiennes. Alors, dans le contexte de l'Égypte actuelle, c'est évidemment important que l'ensemble des chrétiens, toutes confessions confondues, se concertent, et se concertent aussi d'ailleurs avec l'université islamique El-Azhar, qui a publié récemment des documents importants sur la question de la liberté religieuse et la liberté de penser en Égypte, pour faire front face au péril d'une OPA islamiste sur l'Égypte nouvelle.
Est-ce que justement le fait que la situation soit de plus en plus difficile pour les chrétiens dans la région fait que les confessions chrétiennes ne se regardent plus avec méfiance, mais avec un désir de collaboration ?
L'impératif œcuménique, il est d'abord évidemment un impératif ecclésial et chrétien. Il est scandaleux que les chrétiens soient divisés. C'est contraire à l'injonction du Christ qu'ils soient un, comme mon père et moi sommes un, ce qui est à mon avis la plus belle encyclique du pontificat de Jean-Paul II. Mais d'autre part, sur le plan pratique, sur le plan du réalisme politique, si les chrétiens de la région restent divisés, s'ils restent chacun enfermés dans leurs chapelles identitaires, comment pourront-ils faire front face aux défis du monde arabe qui est en pleine mutation?
Le pape François est un interlocuteur qui, justement, peut faire avancer le dialogue sur cette voie œcuménique.
Le pape François s'est d'abord présenté comme l'évêque de Rome, et lors de son intronisation, il avait demandé explicitement aux patriarches orientaux catholiques de l'accompagner. C'est très neuf, et ça marque, je crois, une volonté d'ouverture vers l'Orient chrétien. Et la présence du patriarche œcuménique Bartholomée lors de l'intronisation du pape était un autre signe. On sait que le pape François, durant son expérience pastorale en Argentine, a beaucoup rencontré les communautés orientales qui sont très présentes en Amérique latine et singulièrement en Argentine. Et je gage qu'il a sur cette question des vues, des options qui effectivement sont à même de faire avancer dans le bon sens le dialogue œcuménique.
Des propos recueillis par Olivier Tosseri. Un entretien retrouvé sur notre site internet www.radiovaticana.va. Et dans un communiqué publié par le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens ce mercredi, on apprend que Tawadros II sera reçu par ce même dicastère. Il visitera également les tombes des apôtres Pierre et Paul et rencontrera les fidèles de la communauté copte résidant à Rome. Toujours soucieux d'exprimer sa compassion face aux malheurs du monde, le pape François a fait parvenir ses condoléances aux proches des victimes de l'explosion ce mardi d'un camion-citerne transportant du gaz liquide dans la ville mexicaine d'Ecatepec. Dans un télégramme envoyé à l'évêque du lieu, le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Tarcisio Bertone, a assuré que le pontife avait été attristé par la mort de 24 personnes, dont 10 enfants. Le pape François a également souhaité faire parvenir sa consolation et son affection aux blessés, souhaitant leur prompt et total rétablissement. La journée de l'Europe, comme tous les ans, elle est célébrée le 9 mai dans tous les États membres de l'Union européenne. Une journée afin de commémorer la déclaration Schuman. Cette année, les associations européennes de personnes atteintes du syndrome de Down ont organisé une rencontre à Rome avec 56 jeunes porteurs du handicap du 7 au 10 mai. Ils sont venus avec leurs accompagnateurs de 10 nations différentes. Le thème de cette rencontre, penser différemment, penser européen. Ces jeunes seront reçus ce jeudi par le président du Sénat italien Pietro Grasso. Ce mercredi, ils sont passés dans les locaux de Radio Vatican. Reportage.
Des Irlandais, des Italiens, des Tchèques, des Roumains, ces jeunes atteints de trisomie 21 sont venus des quatre coins de l'Europe pour participer à cet événement exceptionnel. Quatre jours pour échanger, discuter, se connaître, mais surtout sensibiliser les institutions, car l'Europe a encore du chemin à faire en vue de l'intégration totale de ces jeunes trisomiques dans nos sociétés. Par exemple, en Hongrie, ils n'ont pas le droit de vote. Une situation vivement dénoncée par ces jeunes lors de leur passage à Radio Vatican. Ils ont voulu témoigner avec force de leurs devoirs, mais surtout de leurs droits, comme Karine Robert, qui était venue de Saint-Étienne avec tout un groupe de trisomiques.
On est capable de faire des choses pour aussi discuter, échanger. On a des droits, des devoirs. Avant, je travaillais avec IKEA de Saint-Étienne pendant 3 ans. Et maintenant, je cherche. J'ai plus de travail. Je faisais des stages. J'aimerais trouver un vrai travail. Trouver des entreprises, pour moi c'est important ça.
La Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît en effet la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et leurs droits égaux et inaliénables. Pourtant, la discrimination à l'encontre des personnes atteintes de trisomie 21 et de leur famille est une réalité. Le 23 septembre prochain, l'ONU organisera une réunion de haut niveau sur le handicap et le développement pour faire en sorte que tous les programmes de développement de demain prennent en compte les intérêts des personnes handicapées, y compris des trisomiques.
Un reportage signé Olivier Tosserie. Crying earth, this weeping show. Qu'est-ce que la vocation? Quelle est ta vocation? Comment réfléchir à sa vocation? Ces trois questions sont au cœur d'une plateforme d'information qu'anime sur le web le Service national pour l'évangélisation et pour les vocations de la Conférence des évêques de France. Ces pages expliquent d'abord que la vocation de tout baptisé emprunte différents chemins. Il y a le mariage ou le célibat. Presque 8 millions de Français sont célibataires, rappelle-t-on. On peut aussi devenir prêtre diocésain, embrasser la vie religieuse apostolique ou monastique, ou opter pour devenir membre d'un institut séculier. Plusieurs témoignages sont proposés dans ce site qui donne une liste de ressources pour ceux et celles qui souhaitent approfondir leur réflexion sur leur avenir. Voici l'adresse du site internet quelleestmavocation.com. L'archevêque de Bangui, en République centrafricaine, Mgr Dieudonné Nzapalainga et deux autres évêques ont adressé au président Djotodia une lettre pour lui demander de mettre un terme aux agissements des rebelles de la Séléka. Ces derniers continuent de commettre des exactions dans le pays, rapporte le service d'information catholique pour l'Afrique. Les évêques réclament également le rapatriement des avoirs volés, transférés au Tchad et au Soudan, et une indemnisation de l'Église catholique pour tous les biens volés, pillés ou vandalisés. Les trois prélats critiquent la logique de la guerre qui a conduit à la situation actuelle et fustigent les violences commises contre la population par les rebelles du Séléka. Ces violences ont pour nom torture, recrutement d'enfants soldats, déplacement de personnes, pillage de bâtiments publics, d'hôpitaux, d'écoles, violences sexuelles contre les femmes et les filles. Ainsi prend fin cette édition. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, pour un nouveau magazine de la rédaction.